Gargantua, chapitre 14. Comment Gargantua fut mis sous autre pédagogue. À temps, son père aperçut que, vraiment, il étudiait très bien et y mettait tout son temps, toutefois, quand rien ne profitait, et que Piset, qu'il en devenait fou, niais, tout rêveux et rassauté. De quoi se complaignant à don Philippe Desmarets, vice-roi de Papeligoff, entendit que mieux lui vaudrait rien apprendre que tel livre sous tel précepteur apprendre, car leur savoir n'était que besterie, et leur sapience n'était que moufle, abâtardisant les bons et nobles esprits, et corrompant toute fleur de jeunesse. Et qu'ainsi soit, prenez, dit-il, quelqu'un de ces jeunes gens du temps présent, qui ait seulement étudié 2 ans, en cas qu'il ne ait meilleur jugement, meilleure parole, meilleur propos que votre fils, et meilleur entretien et honnêteté entre le monde. Réputez-moi à jamais en taille-bacon de la Brenne. » Ce que, à Grand Gosier, plut très bien, et commanda qu'ainsi fût fait. Au soir, en soupant, le dit Desmarets introduit un sien jeune page de Villegongy nommé Eudemont, tant bien testonné, tant bien tiré, tant bien épousseté, tant honnête en son maintien, que mieux ressemblait quelque petit angelot qu'un homme. Puis dit à Grand Gosier, « Voyez-vous ce jeune enfant, il n'a pas encore 16 ans. Voyons si bon vous semble quelle différence y a entre le savoir de vos rêveurs mathéologiens du temps jadis et les jeunes gens de maintenant. » L'essai plut à Grand Gosier, et commanda que le page proposât. Alors, Eudemont demandant congé de se faire audit vice-roi son maître, le bonnet au poing, la face ouverte, la bouche vermeille, les yeux assurés et le regard assis sur Gargantua, avec modestie juvénile, se tint sur ses pieds et commença à le louer et glorifier. Premièrement, de sa vertu et bonne humeur, secondement, de son savoir, tiercement, de sa noblesse, quartement, de sa beauté corporelle. Et pour le quinte, doucement l'exhortait à révérer son père en toute observance, lequel, tant s'étudiait à bien le faire instruire, à la fin le priait à ce qu'il le voulût retenir pour le moindre de ses serviteurs. Car autre don pour le présent ne requérait les cieux, sinon qu'il lui fût fait grâce de lui complaire en quelque service agréable. Et le tout fut pari celui proféré, avec gestes tant propres, prononciation tant distincte, voix tant éloquente et langage tant orné et bien latin, que mieux ressemblait un Gracchus, un Cicéron ou un Emilius du temps passé, qu'un jouvenceau de ce siècle. Mais toute la contenance de Gargantua fut qu'il se prit à pleurer comme une vache et se cacher le visage de son bonnet, et ne fut possible de tirer de lui une parole, non plus qu'un pet d'un âne mort, dont son père fut tant courroucé qu'il voulut auxir maître Lobelin. Mais le dit Desmarets l'engarda par belle remontrance qu'il lui fit, en manière que fut son ire modérée, puis commanda qu'il fût payé de ses gages et qu'on le fît bien chopiner théologalement, ce fait qu'il alla à tous les diables. « Au moins, disait-il, pour le jour d'huit, ne coûtera-t-il guère à son hôte, si d'aventure il mourait ainsi sous comme un Anglais. » Maître Lobelin partit de la maison, consulta Grand Gosier avec le vice-roi quel précepteur l'on lui pourrait bailler, et fut advisé entre eux que, à cet office, serait mis Ponocrate, pédagogue de Eudemont, et que tous ensemble iraient à Paris pour connaître quelle était l'étude des jouvenceaux de France pour celui-temps.